Nous avons tendance à considérer que ce qui est a toujours été. Il nous est en effet toujours difficile de faire sa place à la dimension historique ou d'accepter que dans l'histoire, tout ne se déroule pas selon un processus nécessaire. Nous l'observons dans de nombreux domaines. Aujourd'hui, nous nous attacherons à l'espace plus particulier de l'économie afin de remarquer comment les choses n'ont pas toujours été comme elles nous apparaissent aujourd'hui. Pour mettre à l'épreuve certaines idées communément admises, je reçois aujourd'hui Jérôme Maucourant. Bonjour.
Bonjour, je vous remercie d'avoir invité.
Nous sommes ravis de vous recevoir. Vous êtes maître de conférence en sciences économiques à Saint-Étienne, c'est cela?
À l'université de Saint-Étienne, j'enseigne plus précisément à l'UIT et je suis chercheur dans un laboratoire qui s'appelle Triangle, où il y a des philosophes, des économistes et des politistes, comme on dit maintenant.
Oui, et vous proposez un livre aux éditions La Dispute, dont le titre pique et notre ignorance et notre curiosité. Avez-vous lu Polanyi? Alors, qui est ce Polanyi? Une petite carte d'identité rapide, avant d'entrer dans le contenu qui nous intéressera.
Alors, je vais essayer d'être rapide. Car Polanyi est né en 1886, mort en 1964. Il est né dans ce qu'on appelait autrefois l'Empire austro-hongrois. Il a grandi à Vienne, qui était la capitale d'un empire cosmopolite. C'est la Vienne de Sigmund Freud, c'est la Vienne de beaucoup de gens qui ont quand même marqué le XXe siècle. Il connaît en fait une enfance difficile, parce que son père fait des mauvaises affaires, et très tôt il est confronté en quelque sorte aux réalités de la vie. Son premier engagement, il le fait dans ce qu'on appelle un parti bourgeois à l'époque. Ça s'appelait le Parti radical des citoyens de Hongrie. Mais très vite, il se tourne vers le socialisme. Et dans les années 20, en fait, il mène une réflexion conjointe qui mêle le christianisme et le socialisme. Alors, je précise que son père était juif et l'a converti à un christianisme de type calviniste, en réalité. Pendant une très longue partie de sa vie, effectivement, il était chrétien sans forcément être affilié à une église, en tant que tel. On va dire que c'est un christianisme non institutionnel. Je crois qu'il a connu, en dépit de ce que certains biographes peuvent dire, parce que j'ai longuement fréquenté les archives, je crois qu'il a connu une véritable crise mystique dans les années 30. Il me semble qu'à ce moment-là, précisément de l'histoire européenne, l'effondrement des sociétés, on peut dire l'effondrement de sociétés séculières, lui donnait comme nécessité d'avoir un ancrage dans la transcendance en réalité, par rapport à ce monde qui devenait en quelque sorte totalement irrationnel. Polanyi est un des rares, en 1933, avoir compris la portée du nazisme. Il a compris que c'était vraiment la fin de la civilisation qui s'engageait alors. Je pense que, et sans doute il n'a pas dû être le seul, que les horreurs de cette guerre l'ont sans doute éloigné de cette foi, l'ont peut-être amené vers une sorte de déisme. En tout état de cause, qui caractérise très largement sa vie, c'est un engagement progressif vers le socialisme, une période profondément mystique à mon sens, et ensuite une volonté quelque part de faire une synthèse entre les évangiles et le marxisme, ça le marque. Alors quand vous lisez, j'en termine par là, parce qu'il est devenu célèbre pour avoir écrit un livre qui s'appelle La Grande Transformation, en 1944, ce genre d'éléments ne sont plus visibles. Il faut vraiment avoir fait l'histoire de cette vie-là, avoir un peu étudié l'Europe de cette époque-là pour comprendre tout ça. Simplement, à cette époque-là, il a près de 60 ans. Et Polanyi est devenu célèbre sur le tard en réalité, et l'épaisseur du personnage ne transpira pas forcément dans un livre en particulier. Simplement pour terminer tout ça, j'ai beaucoup étudié avec Michele Cangiani, qui est un ami, un universitaire de Venise, la période où dans les années 20, dans les années 30, Polanyi écrit, car pour gagner sa vie, après avoir été licencié en droit, après avoir refusé d'être avocat, parce qu'il refusait toute compromission avec le monde de l'argent en réalité, il est devenu journaliste. Et il a écrit beaucoup comme journaliste. Après, en 1945, après un bref passage en Grande-Bretagne, il est allé aux États-Unis. Et là, il est devenu enseignant et il s'est spécialisé, mais on y reviendra bien sûr, dans l'histoire et l'anthropologie économique.
Donc, vous venez de le dire, anthropologie économique. Économique, l'économie, bon, on croit comprendre ce qu'on veut dire le mot. Anthropologie, c'est un anthropologue, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça apporte à l'économie?
Alors, anthropologie, il y a deux acceptions du mot. L'anthropologie, ça peut être un discours général sur la nature humaine, c'est-à-dire la façon dont le philosophe se représente l'homme, bien évidemment. Vous pouvez avoir une anthropologie de David Hume, et lorsqu'on parle de l'anthropologie d'un philosophe de ce genre, il ne s'agit pas du tout de l'étude des peuples dits « exotiques ». Et puis, il y a une autre acception plus moderne, où anthropologie, ça colle un peu avec ethnologie, c'est-à-dire qu'effectivement, il s'agit d'étudier des peuples différents des nôtres. Et alors, c'est vrai qu'il y a, je crois, il y a un lien profond dans la démarche de Polanyi, qu'on peut connaître chez d'autres auteurs aussi, c'est-à-dire que une conception générale de l'homme en vient, chez lui, le pousse, à saisir un ensemble de choses qui peuvent déterminer l'humanité dans sa généralité, comme genre, comme espèce, mais également à comprendre les différences qui peuvent structurer les communautés humaines. Et comme vous l'aviez fort bien dit en présentation de l'émission, oui, l'économie n'a pas toujours été ce qu'elle est, ce qu'on vit maintenant, et Polanyi s'est attaché à comprendre ce qu'elle pouvait être autrefois, il s'est attaché à comprendre l'exceptionnalité de notre société, mais aussi les autres sociétés qui ont pu exister ou qui existent encore. Donc il y a quand même une volonté de produire un discours général sur l'homme et les communautés ou sociétés humaines.
Alors vous disiez tout à l'heure que donc Polanyi va se diriger vers un socialisme, on verra tout à l'heure en quoi il consiste, mais donc que refuse-t-il dans, quelle conception de l'économie refuse-t-il et au nom de quelle anthropologie y voit-il ?
Je prendrai les choses un peu historiquement. Dans les années 1920, beaucoup en économie essaient de se poser la question « Est-il possible de construire une alternative au capitalisme ?» Parce que le capitalisme était quand même jugé responsable. Alors, bon, est-ce que c'est justifié ou non ? Mais ça, on pourrait y revenir. Responsable des guerres qui avaient ensanglanté l'Europe. Bon, beaucoup plus que des nations en tant que telles. Quelqu'un comme Jaurès était parfaitement attaché à l'existence des nations et simplement estimait, comme beaucoup de gens à l'époque, comme Polanyi, comme tous les socialistes de l'époque, que le capitalisme avait eu tendance à dresser les peuples contre les autres, tout simplement parce que c'est un système qui pousse à l'accumulation, à la domination. Le capitalisme débouche sur l'impérialisme et la confrontation entre les peuples. Donc il y avait quand même, suite aux meurtrissures de la Première Guerre mondiale, une volonté de changer un système économique dont les conséquences sociales étaient jugées nuisibles pour l'humanité. Mais je crois qu'il y a, plus que ça. Il y a plus que ça, c'est que ce système qui se caractérise au fond par la division de classe, ce que Polanyi dira lorsqu'il sera dans un langage plus chrétien, par la division de la communauté humaine elle-même, entre ceux qui possèdent le capital et ceux qui n'en possèdent pas, c'est bien pour lui une exigence morale que tous puissent participer au contrôle de ce qui fait la société, la production de la société par elle-même.
Françoise Tinel. Alors Jérôme Maucourant, donc quel est donc l'apport spécifique de Polanyi par rapport à cette critique qu'il fait de l'économie capitaliste ?
Alors bon, il est multiple.
J'ai retenu moi deux exemples qui peut-être font comprendre un petit peu à celui qui n'y connaît rien comme moi. Quelle est sa position concernant la monnaie, concernant le marché ? Les exemples qu'il prend m'ont fait comprendre un petit peu quelque chose d'important peut-être que vous pouvez nous expliquer.
Bon, alors je répondrai à cette question mais peut-être pas tout de suite.
Pas tout de suite, d'accord.
Dans un premier temps, je voulais insister sur son originalité. C'est-à-dire que dans les années 1920, une forme de socialisme se construit en Union soviétique et il s'y oppose. Il s'y oppose parce qu'il estime que la monopolisation politique est un phénomène inadmissible et en gros il développe ce qu'on appellerait maintenant un modèle de socialisme autogestionnaire. En gros c'est ça. Et qui soit ni effectivement un communisme étatique, au sens où Lénine puis Staline sont en train de le construire, ni évidemment le capitalisme libéral que lui connaît. Je développe dans mon livre les spécificités de ce modèle, je montre effectivement son intérêt, et bon, c'est vrai qu'il a échoué dans les années 1920, hein, j'y reviendrai aussi, mais peut-être que pour le 21e siècle, après tout, ce genre de préoccupations ne sont pas totalement inactuelles. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, le cours de l'histoire européenne change, comme on dit maintenant, avec cet affreux anglicisme, l'agenda, le calendrier de ce qu'il faut faire. La montée du fascisme lui fait comprendre que l'important, effectivement, c'est de défendre la démocratie. D'autant que pour lui, le socialisme, ce n'est jamais rien d'autre que l'approfondissement de la démocratie à la vie économique. Et d'une certaine façon, on peut dire que que Polanyi commence à devenir à ce moment-là un penseur d'une forme de social-démocratie raisonnée. Ayant compris qu'il était sans doute difficile d'imaginer au socialisme de sa jeunesse, il estime important de passer des compromis avec le capitalisme qui permettent de conserver le système de marché, je dirais. Alors, nous allons effectivement tout à fait vers ce que vous me demandez, le système de marché au pluriel. Il estime important qu'un ensemble de marchés continue de régler une partie de la vie économique. Mais ce qui lui apparaît fondamental, et ce qui va déterminer la forme nouvelle de son socialisme, c'est que les choses qui n'ont pas été produites pour être vendues, c'est-à-dire la terre, c'est-à-dire, j'y reviendrai à la monnaie, car ça peut se surprendre un peu plus,
oui.
C'est évidemment l'être humain, que les capitalistes s'approprient sous le nom de rente foncière, ça c'est pour la terre, ou l'intérêt du capital, ce qu'on entend à la radio par taux d'intérêt, ou encore évidemment le salaire, le prix du travail. Il estime fondamental de retirer au marché la régulation de ces choses qui n'ont pas été produites pour être vendues et qui expriment d'une part tout simplement notre humanité et par ailleurs notre rapport à la nature qui n'est naturellement absolument n'a aucune raison d'être fondé sous l'empire de la marchandise. Il explique un moment, mais au fond, nous autres, nous estimons que nous possédons la nature. Les Arapèches, un peuple exotique, entre guillemets, estiment qu'au fond, ils appartiennent à la nature et à la terre. Mais qui a tort et qui a raison dans cette affaire? Ni l'un ni l'autre. Nous devons admettre que l'idée que nous possédons la nature est après tout une fiction culturelle transitoire, et j'ai presque envie de dire qu'au moment où il y a un réchauffement de l'effet de serre, un réchauffement climatique, c'est-à-dire une accentuation de l'effet de serre, nous comprenons peut-être que la nature ne nous appartient pas. Et en ce sens, Polanyi annonce effectivement la pensée écologique lorsqu'il dit que la fiction du capitalisme est tellement insupportable que si on la laissait faire, notre monde deviendrait un désert inhabitable. Il le dit en 1944, ce qui est quand même assez...
La fiction, oui, vous dites, donc cette théorie capitaliste, c'est une façon de réduire tout à un petit point de vue sur la réalité.
Ça consiste à dire que des choses qui manifestement ne sont pas des marchandises. Sauf à dire que l'homme est né pour être une marchandise, ce qui serait assez singulier. Bon, vous allez me dire, avec les ventres alloués, avec l'esclavage, ce genre de choses, peut entrer dans l'orbite de la marchandise. Mais il dit que fondamentalement, rien ne nous permet de dire que l'homme n'a été produit pour être vendu, ni la terre. Alors, la monnaie, j'y viens. Ça peut sembler surprenant parce que la monnaie, a priori, est un instrument d'échange de marchandises en tant que telle. Mais évidemment, et c'est là tout l'intérêt du regard non ethnocentrique que nous propose Polanyi, lorsqu'on observe différentes sociétés humaines, on s'aperçoit que les monnaies ont souvent existé. Mon ancien directeur de thèse, Jean-Michel Servet, a fait un ouvrage qui s'appelle Numismata, où il montre bien qu'existait bien avant la société de marché ce qu'il appelle des paléomonnaies, c'est-à-dire des instruments qui avaient pour fonction d'évaluer les dettes, de payer des dettes et peut-être d'accumuler des richesses. Mais soyons nets là-dessus, les dettes peuvent avoir une origine politique, elles peuvent avoir une origine financières, elles peuvent avoir de multiples origines qui ne sont pas nécessairement liées à la production des marchandises par les marchandises. Mmh. Il peut même y avoir des dettes culturelles. Et on sait très bien, il y a même une théorie qui a été faite par un anthropologue philosophe allemand, historien qui s'appelle Laum, dans les années 20, qu'au fond, les premières monnaies étaient d'une telle valeur au VIe siècle avant Jésus-Christ, dans l'ancêtre de ce qu'on appelle l'Occident, qu'elles ne pouvaient pas avoir d'utilité marchande pour le marché au quotidien. En revanche, semble-t-il peut-être, pour ce qui est de la codification des sacrifices, c'est-à-dire rationaliser le rapport de l'homme aux divinités, alors la monnaie pouvait avoir son intérêt.
Dialogue des auteurs et des acteurs de notre société.
Alors Jérôme Maucourant, je crois que vous voulez encore nous dire quelque chose sur la monnaie.
Oui, je voulais revenir sur cette question de la monnaie qui est importante. Donc, j'ai évoqué des hypothèses qui pouvaient être cultuelles quant à l'origine de la monnaie, ou qu'on peut appeler religieuses. Il y a d'autres hypothèses, mais d'ailleurs, dans le fond, pour ce qui est de l'Antiquité, où le monde du cultuel, du religieux et du politique sont indissolublement liés, tout cela n'est pas forcément contradictoire. La monnaie, ça peut servir à mesurer la place d'un citoyen par rapport aux autres. D'ailleurs, dans le sens romain, ce qu'on m'apprenait quand j'étais à l'école, le fameux census, eh bien, l'évaluation des citoyens était en même temps morale et financière, de façon absolument indissoluble. Donc il faut...
Oui, le sens, au sens de censitaire.
Censitaire, oui. Les censeurs étaient des gens qui évaluaient les citoyens pour tout simplement savoir s'ils pouvaient être citoyens, quelle était leur place, qu'on pouvait leur assigner dans la cité. Alors ça a donné le rôle ensuite de censure, mais la censure est un phénomène d'évaluation, d'estime des citoyens. Et on voit bien qu'il y a là quelque chose de commun avec la monnaie, c'est-à-dire l'unité de compte, tout simplement. Oui. Il s'agit de rationaliser. Au fond, la monnaie participe d'une activité de rationalisation de la vie sociale, mais ceci n'est pas forcément lié à la question du marché. Rationaliser les échanges entre les hommes et les dieux, c'est pas fondamentalement une activité marchande. Alors maintenant la question...
Le marché... Non, encore quelque chose sur la monnaie ?
Oui, encore quelque chose sur la monnaie, c'est que, au fond, comme la monnaie paye les dettes, il est bien évident qu'à partir du moment où, dans la société... va se développer une production pour le marché et que les dettes vont être fondamentales. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais de capitalisme s'il n'y a pas de système de crédit développé. On pourrait revenir dans cette affaire-là. Il est évident qu'à partir du moment où les dettes vont devenir un phénomène important, alors, c'est vrai, d'une certaine façon, le marché va s'emparer de la monnaie. Ce qui autrefois venait du prêtre, du prince ou de la communauté politique, ce qui autrefois était... le monument de la cité, on a dit que c'était autrefois le monument de la cité. Souvenons-nous de Démosthène qui fait un jeu de mots en grec qui dit « les monnaies sont les lois de la cité, nomismata ». Bon, les lois de la cité, c'est pas une question d'argent, on le voit très bien. Mais ça va être subverti par la logique monétaire, par les premières formes de développement de l'économie de marché qu'on voit d'ailleurs à Rome. Alors, qui sans doute n'iront peut-être pas très loin, mais l'époque romaine est effectivement une période où, pour le coup, la monnaie va entrer dans un système d'éléments de marché. Mais nous pourrons revenir là-dessus. Alors, maintenant, sur la question des marchés et du marché.
Parce que, alors, est-ce que ça a toujours existé ? Est-ce qu'ils ont toujours été, le marché a toujours été ce qu'il est aujourd'hui ? Alors, il semble que non, hein, d'après ce que j'ai pu lire dans votre livre.
Non.
Avez-vous lu Polanyi ? Je n'ai pas lu Polanyi, j'ai lu Jérôme Maucourant sur Polanyi. Je conseille aux auditeurs de me suivre.
Oui, oui, bon, écoutez, moi, j'ai écrit mon livre comme une introduction à un autre grand livre de... Enfin, un autre grand livre, le mien n'est pas grand, mais celui de Polanyi, pardonnez-le. C'est la grande transformation qui a été éditée il y a à peu près une vingtaine d'années, à un moment où, c'est pas un hasard d'ailleurs, le marxisme entrait dans une crise profonde.
Voilà.
C'est un peu pourquoi d'ailleurs je me suis intéressé à Polanyi, pour tout vous avouer.
Alors le marché, que le temps passe.
Le marché, ce que dit Polanyi, c'est qu'au fond, l'idée selon laquelle effectivement l'homme, la terre et la monnaie vont rentrer dans un système de marché, c'est-à-dire on va faire comme si tout cela avait été produit pour être vendu, eh bien il dit que c'est une idée récente. Le fait que les facteurs de production rentrent dans l'orbite de la marchandise, tout ça c'est nouveau. Il nous explique qu'au fond, autrefois, il y a eu des marchés isolés. je développe lentement la chose, que ce soit dans l'Antiquité ou à l'époque médiévale. Mais ces marchés, d'abord, n'étaient pas interconnectés les uns aux autres. Ils ne formaient pas un système. Polanyi dit que c'était des éléments de marché. De surcroît, la terre elle-même n'était pas marchandisée. On pourrait longuement d'ailleurs parler de l'esclavage en disant que finalement, effectivement, l'esclavage en quelque sorte, c'est-à-dire la réduction de l'homme à une marchandise, pouvait être un élément du capitalisme. Mais justement, ça a été un élément qui, effectivement, était un moteur de production marchande dans l'Antiquité, mais qui a très vite trouvé ses limites. Et si vous lisez le livre d'Aldo Schiavone, L'histoire brisée, il montre très bien que la logique d'une société marchée sur l'esclavage est absolument antinomique avec l'antinomie, avec la société marchande, précisément. Donc, je crois qu'il ne faut pas se laisser abuser par cet exemple de l'esclavage. Et l'idée, en même temps, que la monnaie puisse rentrer dans l'orbite de la marchandise, eh bien ça, c'est en gros l'époque de l'étalon-or, qui est finalement quelque chose de très récent, avec les banques centrales et tout un ensemble de systèmes. Autrefois, la monnaie était le fait du prince. Donc, il y a eu des marchés. Mais l'idée qu'un grand marché recouvre terre, monnaie, capital, travail, et peut-être même maintenant, imaginez-vous le vivant, et maintenant la pollution. Imaginez qu'on invente des marchés quand même sur des droits de polluer, c'est absolument ahurissant quand on y réfléchit bien. C'est une fiction qui est totalement arbitraire, qui trouve sans doute des origines profondes dans la mutation anthropologique de la Renaissance, mais qui n'exprime pas la vérité nécessaire de ce que l'humanité doit devenir.
Oui, voilà, en effet, une réflexion qui est très importante. Alors, je vois que le temps passe, je vous demande rapidement peut-être de repréciser ce à quoi vous avez fait allusion tout à l'heure. Vous dites que Polanyi a essayé de faire une espèce de synthèse de Marx et du christianisme, c'est surprenant.
Oui, alors...
Pour l'auditeur que je suis, oui, peut-être. Et vous avez dit en même temps qu'il était contre une forme de marxisme. Donc, que trouve-t-il dans le marxisme, finalement, qui le rapproche du christianisme?
Alors, en gros, le marxisme, pour lui, est important, parce que d'abord, c'est une méthode qui va d'ailleurs contester, transformer, mais c'est quelque chose qui lui semble tout à fait important pour comprendre la dynamique du capitalisme.
D'accord.
Bon, c'est un outil d'investigation.
D'accord.
D'autre part, le marxisme, c'est quelque chose qui indique le fait que la société que nous connaissons est une société de domination de l'homme sur l'homme, de peuple sur d'autres peuples. Et que, au fond, pour quiconque est attaché à l'idée d'égalité et de fraternité, il n'est pas possible de continuer à vivre dans un système comme ça. Ça, c'est la première chose. Alors évidemment, comme il le dit dans les années 30, au fond, la doctrine de la fraternité chrétienne répond assez bien à cette idée-là. Et c'est vrai qu'il y a, et on le sait bien, dans le marxisme, des éléments qui rappellent le messianisme, c'est-à-dire le prolétariat qui est quand même investi de
la mission de
sauver l'humanité. Mais c'est absolument clair. Et Polanyi l'assume tranquillement, d'ailleurs.
C'est au niveau des moyens qu'il voit...
Alors, il estime...
Il n'est pas d'accord avec ce soviétisme, ce socialisme centralisateur?
Alors, effectivement, au niveau des moyens, pourquoi? Parce que pour lui, le fondement du judaïsme, il était quand même juif à l'origine, et du christianisme, pour lui il y a une continuité dans tout ça, c'est tout simplement la doctrine de la personne humaine. C'est un individualisme social en quelque sorte, c'est comme ça qu'il essaie de le définir. Bon. Ce qu'il dit d'une certaine façon, c'est que le marxisme en reste à un niveau trop social. C'est vrai qu'il peut... d'une certaine façon œuvrer en faveur de la fraternité des êtres humains, tout simplement en liquidant tout ce qui existe comme domination dans un système capitaliste. Mais, dit-il, il y a des profondeurs dans la personne humaine qui échappent à des déterminismes sociaux. Et la personne, ce n'est pas que l'individu qui est en lien avec d'autres pour créer. Voilà. En gros, c'est ça qu'il dit. Et d'ailleurs, moi je ne suis pas spécialiste de tout ça, mais c'est vrai que dans ce que je vais éditer, alors je tiens quand même à le dire parce que c'est important, en 2006, fin 2006, nous allons sortir aux éditions du Seuil dans la collection Économie humaine, dirigée par Jacques Généreux, cette collection. Donc nous allons sortir un livre avec Michele Cangiani qui s'appelle Essai de Polanyi. Et là, vous allez trouver un livre qui s'appelle L'essence du fascisme où Polanyi essaye en quelque sorte de faire une sorte de critique à la fois marxiste et chrétienne du fascisme.
Je suis désolée, Jérôme Courant, vous écouterez bien encore et j'aimerais bien aller vous écouter en cours, mais c'est l'heure dépassée même. Je rappelle le titre de votre livre, Avez-vous lu Polanyi? C'est édité chez La Dispute fin 2005 et l'auteur, Jérôme Courant.
Je vous remercie.